et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Dans le dialogue des religions de ce mercredi 30 décembre 2015, la récente action de voyageurs musulmans kényans qui ont refusé d'identifier les chrétiens parmi eux, malgré la menace des islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Qu'en pensez-vous? Tel est le thème de cette émission. Au micro, Idrissa Sédouya, bonsoir. Avec moi en studio, fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire, ma collègue Kadiatou Traoré. Kadiatou, bonsoir.
Bonsoir Idrissa.
Et pour cette dernière émission de 2015, un autre fidèle du dialogue des religions et qui mérite bien son nom, Fidèle Loubeya. Fidèle, bonsoir.
Salut à Kadiatou et salut à Idrissa Nangandef. Kadiatou, comment on dit comment tu vas dans ta langue là au Mali?
Ika Kenewa.
Oh, Ika Kenewa.
Ika Kenewa.
Ika Kenewa.
Nka Kene Kosebe. Ça, c'est la réponse.
Et il faudra demander à Joselle comment on le dit aussi en créole.
Joselle, est-ce que ce n'est
comment
pas
ouille?
Comme en français, comment tu vas?
Comment ouille, dit-elle. Hein?
Comment ouille,
voilà.
Comment tu vas?
OK, merci Fidèle. Alors, Fidèle, pour rappel, est écrivain, consultant en développement des organisations et comme j'ai l'habitude de le dire, il a enseigné la religion en Afrique, particulièrement en Ouganda, Fidèle, et du Congo, Kinshasa. Voilà. Kadiatou, rappelez maintenant à nos auditeurs comment ils peuvent participer à cette émission.
Alors, Idrissa, nos auditeurs peuvent nous appeler au 001-202-619-3140 ou nous envoyer des SMS au 225-58-92-85-40. 257-755-56-000 ou 221-765-727-293 ou au 223-94-11-39-19.
Merci Kadiatou. Maintenant, pour camper de nouveau le sujet, un groupe de musulmans du Kenya voyageant à bord d'un bus attaqué par des chebabs somaliens ont protégé les passagers chrétiens malgré les menaces des islamistes. Nous retrouvons Chérubin Dorsil.
Selon des témoins, certains des musulmans dans le bus ont donné des turbans aux non-musulmans pour cacher leur identité. Ils se sont rappelés probablement une attaque similaire l'an dernier dans la même région lorsque des combattants d'Al-Shabaab ont tué 28 passagers sortis d'un bus. Les 28 n'étaient pas musulmans. Cette nouvelle attaque, survenue lundi dans le nord du Kenya, a fait 2 morts par balle. Cependant, face à la démonstration d'unité des passagers qui ont refusé de former 2 groupes suivant leur appartenance religieuse, les militants ont finalement abandonné leur assaut. Nous félicitons les musulmans qui ont défendu et protégé les chrétiens durant cette attaque. Ils ont démontré aux terroristes qu'ils ne peuvent pas se servir de la religion pour nous diviser, a déclaré le secrétaire à l'intérieur du gouvernement kényan, Joseph Nkesri. Le Kenya, qui est intervenu militairement contre les chebabs somaliens depuis 2011, a subi des actes de représailles. Les islamistes jurent de poursuivre leurs attaques tant que Nairobi n'aura pas retiré ses troupes.
Merci Gabi. Alors Fidèle, vous connaissez bien l'Afrique, vous connaissez bien les relations qu'il y a à différentes communautés en Afrique même. Alors vous avez été surpris par cet exemple?
Non, je n'ai pas été surpris pour deux raisons. La première est que quand vous parlez de l'identité religieuse au Kenya et quand vous parlez de l'identité religieuse en Somalie et vous parlez de l'identité religieuse au Mali, c'est deux choses différentes. Au Mali, pour le crédit de notre ami et collègue Kadiatou, la Noël est fêtée par tous les religieux, les chrétiens comme le musulman, c'est vice-versa. C'est-à-dire que l'identité malienne vient en première place et les multireligions est une valeur malienne. Ainsi au Kenya. Au Kenya, il n'y a pas une religion seulement, il n'y a pas que l'islam. il y a multitude de religions. Les Kenyans se représentent d'abord comme Kenyans et la religion vient après, comme au Mali. Maintenant, en Somalie, il n'y a qu'une seule religion. La Somalie n'a connu qu'une seule religion. C'est l'islam. Ils n'ont pas l'expérience du multiculturalisme. Ils n'ont pas l'expérience de comment vivre un monde multireligion. Les Somaliens n'ont pas ça. Donc la première expérience où les Shababs sont partis tuer à l'université, ils ont surpris le monde. Cette deuxième expérience dans le bus, les Kenyans multireligieux se sont ressaisis pour dire, écoutez, nous n'allons pas céder à nos valeurs multireligieuses. Nous ne sommes pas d'abord religieux, nous sommes d'abord Kenyans. La religion vient après, en Merci. Comparaison à l'islam ou à la religion en Somalie, où les Shababs se croient que non, nous allons continuer dans un monde où il n'y a que l'islam. Ce monde où il n'y a que l'islam n'existe pas au Kenya, n'existe pas au Mali, et n'existe pas au Niger, et n'existe pas dans beaucoup de pays africains. Les Africains se considèrent d'abord étant original, et la religion vient après. Ça, c'est un acte d'encouragement. C'est comme on le voit aussi au Nigeria et dans d'autres. Félicitations aux Kenyans qui se sont dit, écoutez, nous n'allons pas partager votre expérience où il n'y a qu'une seule religion. Nous ne sommes pas seulement l'islam ou seulement chrétien ou seulement animiste. Nous sommes Kenyans.
Merci, merci Fidel. Maintenant, Kadiatou, je crois que nous avons des auditeurs en ligne.
Oui. Oui, Alphonse Boaki.
Oui, madame Kadiatou, à tout à l'heure, vraiment, j'étais très touché par ce geste. Par les musulmans. En tout cas, vous savez que nous, les humains, nous avons un seul ADN, nous sommes des humains.
Voilà.
Donc, les musulmans ont compris que l'humain passe avant la religion. La religion est venue trouver l'homme. La religion est venue après. Donc, ils ont compris cela. C'est pourquoi ils ont agi de cette manière. Donc, en Centrafrique, pour prendre le cas de ce pays, si les musulmans, les chrétiens, avaient compris que la religion était venue après, et que l'humain passe en avant, donc ils n'allaient pas être instrumentalisés par les politiciens. Donc, vraiment, c'est vraiment un geste encouragé, c'est un bel exemple qui enseigne tout le monde entier que la religion ne peut jamais nous diviser.
Merci.
Donc, vraiment, c'est encourageant. Vraiment à féliciter.
Merci beaucoup, Alphonse. Effectivement, il était formidable de constater que j'ai l'impression que ces Shababs étaient plutôt interloqués. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment il y avait ces gens-là qu'ils menaçaient de mort et qui ont dit non.
Et ils étaient brusquement devenus tous musulmans.
Ça les a désarmés.
Dans leur apparence et
ça,
tout.
Voilà, ça voilà. Les a désarmés et ils sont repartis heureusement bredouilles.
Bredouilles. Comme il a si bien dit Alphonse et comme notre professeur aussi l'a si bien dit, il y a les deux côtés, il y a M. Lumeya. Fidel a parlé d'être d'abord de la même nationalité, avant d'avoir la différence culturelle, religieuse. Et Boaki a complété par dire qu'il y a un fait qui est là. C'est-à-dire que toutes les âmes...
Oui, exactement. Et Fidel, puisque vous vivez aux États-Unis maintenant, en somme, c'est ce qu'on dit ici, qu'avant la religion, il y a la nationalité, on est américain, on est tous américains, peu importe le genre de religion qu'on a, et cette religion est protégée par la Constitution, quelle qu'elle soit.
Oui, c'est vrai. Aux auditeurs et auditrices qui ne vivent pas aux États-Unis, ça c'est la période des élections. Le discours électoral est tout à fait différent quand on devient président. Mais en Afrique, nous ne changeons pas à cause des saisons. Nous restons africains. L'islam en Afrique est venu. Il y a eu des religions africaines qui sont là. L'islam est étranger en Afrique, comme aussi le christianisme est Afrique et n'est pas africain. Ça, ce sont des religions qui sont venues d'ailleurs. L'Africain, quand vous lisez par exemple mon livre, l'Africain reste d'abord original. Ainsi, on n'a pas compris en Afrique pourquoi est-ce qu'il faut aller prier seulement vendredi pour les musulmans et pourquoi il faut aller seulement dimanche. Et où est Dieu pendant tous ces jours? C'est la question que l'Africain pose. À l'islam et à d'autres religions, parce que la vie religieuse en Afrique est tous les jours. Quand on part dans la forêt, la maman prie. Elle prie à la divinité de la protéger. Le papa qui coupe le bois prie. La prière est fervente. Elle est 24 heures pour un Africain. Les religions qui sont venues d'ailleurs ont des jours où il faut être religieux.
Fidèle.
Moi, c'était juste dans le but de compléter ce que le professeur Lumeya vient de dire. J'ai vu ici qu'il y a des groupes qui ils utilisent le même endroit pour faire leurs prières et de religions différentes.
Oui.
Le dimanche, ça devient une église et le vendredi, c'est la mosquée.
Effectivement, par exemple, dans la région de Washington, en Virginie, on a vu, des églises qui ont été ouvertes à des musulmans parce qu'il n'y avait pas assez de mosquées ou il y avait trop de monde pour les mosquées qui étaient disponibles. Et non seulement les églises, mais aussi des synagogues qui ont été ouvertes à cette
fin. Ça existe ici à Washington DC, ouais. Et les gens continuent à aller prier. Le fédéral, le gouvernement, les fonctionnaires, dimanche, c'est l'église. Et voilà, le vendredi, les musulmans vont faire leur prière.
Un autre auditeur
Voilà, peut-être. Nous avons un autre auditeur, Bakari. Bakari, si vous nous entendez, vous avez l'antenne.
Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Keïta.
J'ai dit à votre invité aussi, Aka Kenawa.
Ah, professeur Lumeya, vous entendez Bakari?
C'est ça. Bien, okay. Si vous me permettez...
Aka Kenawa.
Aka Kenawa.
Aka Kenawa.
Voilà, ok. Donc, je viens tout juste de rentrer du stade du 26 mars, où les dix spirituels sur Ousmane Madame prêchaient. Il a parlé beaucoup de thèmes, notamment l'islam, quoi, comme le pardon, la tolérance. Et surtout, il a dit quelque chose qui est très important, comme quoi Dieu a envoyé une dame est partie à l'enfer parce que la dame n'a pas donné à manger à un chat. À plus forte raison, si un être humain tue un autre être humain. Pour dire que c'est des trucs de religion, il dit qu'il condamne ça fermement. Donc pour revenir maintenant au Shebab, moi je crois qu'ils doivent bien lire quand même le Coran. Moi je crois qu'ils ne sont pas en train de faire tout ça pour l'islam. À mon avis, ils ont quand même un agenda caché. Donc ils doivent redevenir sur terre. L'islam quand même prône le pardon, la tolérance et l'acceptation de l'autre là. Surtout les chrétiens et les musulmans font un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne entre eux, une barrière entre eux. Ils doivent se donner la main pour fonder quand même une société vraiment unie.
Merci Bakari. Je lis ici un commentaire d'Ali Saïd qui dit « C'est un acte de solidarité, ça mérite de faire le tour du monde. L'islam est une religion de paix, de tolérance qui exige l'amour du prochain ». Quelle que soit sa conviction religieuse, il y a des marabouts, dit-il, des marabouts voyous, avec la complicité de certaines sectes qui veulent détruire l'image de l'islam, mais ils ne parviendront jamais, Inch'Allah.
Il y a Patrice Kamano qui dit que le monde finira également par ses actes terribles. Même Dieu pleure pour son peuple. Il est déçu de ses enfants sur terre qui n'ont ni amour ni pardon. Il est écrit que le Fils de l'homme sera persécuté, maltraité et mis à mort, mais la seule fierté d'un chrétien réside dans le pardon. Reçois leur âme auprès de toi. Père, très haut, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Alors, Abdourahman, qui est en ligne, Abdourahman, vous avez l'antenne. Allô, Abdourahman?
Ok, s'il n'est pas en ligne, on va continuer à lire. Alphonse Boaki qui dit ici quelque part que l'unité demeure une force pour combattre l'extrémisme. Ces musulmans ont fait preuve de la tolérance, de la cohabitation et ont respecté les vies humaines, nonobstant la différence des religions. Ce qui a préoccupé ces musulmans, c'est la sacralité des vies humaines et non la religion.
Merci. Et Gabriel Kandjo dit ce dialogue est important pour les deux côtés comme en RCA, en République centrafricaine, où tous font ce qu'ils veulent, mais ça ne changera rien pour le radicaliste. J'ai pas très bien compris, mais comme vous le savez, Fidel, la République centrafricaine, et vous avez été l'un des premiers à attirer l'attention sur le risque de flambée de violence qu'il y avait en République centrafricaine, bien avant même que la presse n'en parle. Alors, il y a eu des élections là-bas. Vous pensez que c'est le début de la réconciliation?
Oui, tu sais, je n'ai pas seulement... j'ai étudié, j'ai fait mon master en business administration à l'université de Bangui. J'ai vécu à Bangui pendant 3 ans, pendant une période de bonne transition là. Je connais Bangui comme je connais beaucoup de pays africains. Quand j'entends beaucoup des acteurs qui parlent, je les ai connus personnellement. J'ai été impliqué avec la jeunesse centrafricaine. Je parle un peu de Sango que je suis en train d'oublier. Le PK5, j'ai gravité là-bas. C'est là où j'ai fait mon stage au PK5. J'allais prendre les petits, ce qu'on appelle les misui, pour manger les petites viandes sur le bar, sur la rue, comme partout en Afrique. J'aime Bangui. Et quand j'entends les noms, c'est pas éloigné pour moi. Je connais ces personnes personnellement. Bangui, c'est une question de politique, de la recherche du pouvoir. Mais ceux qui recherchaient le pouvoir connaissaient la dynamique religieuse entre le petit paysan, le petit vendeur au PK5. PK5, ce sont des musulmans. Mais ce sont des musulmans... Banguissois, ce sont des musulmans tchadiens, ce sont des gens qui gagnent leur vie paisiblement. Et les politiciens ont exploité cette division comme on le voit toujours en Afrique. Il n'y a jamais eu un problème religieux à Bangui.
Merci.
Ça a été utilisé pour des raisons politiques. Mais nous devons féliciter les Banguissois, comme on les appelle, qui se ressaisissent pour aussi dire, comme les amis de Kenya, il y a ici une connexion entre le Banguissois qui s'est réveillé pour dire non, vous n'allez pas manipuler l'élément religieux pour votre pouvoir avec ce qui s'est passé au Kenya, où les gens disent Shabab, non, vous n'allez pas manipuler.
Fidel, je me souviens, j'avais interviewé un imam centrafricain, Bangui. Et je lui dis, mais vous êtes maintenant réfugié chez l'archevêque de Bangui. Il dit, non, pas du tout. Parce que l'imam était menacé de mort par les anti-Balaka. Alors, il a été accueilli par l'archevêque de Bangui, qui l'a hébergé chez lui et qui le protégeait. Il m'a dit, non, je suis chez mon frère. Oui. Je ne suis pas réfugié chez lui. Ainsi de suite. Donc... malgré le chaos qui les entourait, cette solidarité entre frères centrafricains n'avait pas disparu. Gabriel Kadjo. Gabriel, vous avez l'antenne.
Oui, présent.
Allez-y.
Oui, comme je le disais, comme je l'ai écrit, je disais que c'est important, mais ça peut créer toujours des problèmes parce que même si que l'Église catholique ou l'Église protestante peut se coaliser, on peut se réunir avec les imams, les gars musulmans. Ça peut donner de bons résultats, mais est-ce que ça va donner des résultats aux radicalistes? Alors, dans ce sens, parce que les radicalistes restent toujours radicalistes, et dans ce sens, moi, je ne trouve pas l'importance, parce que l'essentiel, c'était de parler avec ces radicalistes musulmans ou ces radicalistes chrétiens. et pas de parler, de négocier avec des gens qui ne sont pas radicalistes. À mon niveau, moi, je trouve que ça sera...
Fidèle, vous voulez commenter?
Il n'y a pas de négocier entre les deux radicalistes.
Fidèle?
Fidèle,
oui, j'ai suivi notre...
Gabriel Kanjo, oui.
Oui, oui. Le radicalisme ont toujours le micro et ont toujours de la voix parce que au milieu ici, les modernistes, comme on les appelle, n'aiment pas beaucoup parler. Je crois que nous devons toujours rester avec nos convictions, de dire, écoutez, je dois mourir, mais je dois parler. Et les modernistes reprennent de la voix, par exemple, en Centrafrique. Nous l'avons vu même au Kenya, nous l'avons vu même au Mali, nous l'avons vu même au Sénégal. Senghor est sorti comme président dans un monde qui est musulman. C'est parce que le voix de moderniste, le voix du mulier ont parlé pour dire, écoutez, nous ne cherchons pas un pape, nous cherchons quelqu'un qui peut nous aider à résoudre le problème de l'eau, de l'électricité.
Merci. Je lis un commentaire ici de Joseph Katende qui dit, parlant de ces musulmans dans le bus au Kenya, ils ont montré aux aveugles et à ceux qui ne veulent pas voir que l'islam et le terrorisme sont diamétralement opposés. Katiatou ?
Il y a Ouedraogo Youssouf qui écrit aussi « Être humain ne suffit-il pas pour mériter sa liberté ?» Je soutiens entièrement cette action pleine de sens parce que s'identifier dans ce sens contribue négativement à la stigmatisation spécifique des communautés à la merci des serviteurs du vide. Il faut dire que les terroristes mènent sauvagement une guerre de propagande sur les faiblesses constitutionnelles des États laïcs. Et il continue après, et si absolument rien ne peut justifier le terrorisme, rien ne justifie plus non plus le mépris à l'égard de l'environnement religieux, notamment l'islam guidé par ses constitutions déshonorantes. L'Afrique doit arrêter de faire des éloges aveugles à l'imposition culturelle importée.
Fidel, tout à l'heure, vous avez parlé de religion importée. Est-ce qu'il fait allusion à ça?
Oui, oui, il le fait. C'est-à-dire qu'il y a ce que le bien, l'impact de cette émission ici, et que vous écoutez depuis qu'on est tous en train de donner de la voix aux musulmans et chrétiens africains, vous écoutez la ferveur africaniste venir. Et cette ferveur a été là depuis des années 60, quand le communisme et le capitalisme voulaient devenir comme la grande narration de l'Afrique. Les Africains se sont révoltés pour dire, écoutez, nous ne sommes pas d'abord capitalistes ou bien nous ne sommes pas pour la guerre froide, nous sommes d'abord africains. Et cet africanisme revient quand l'Afrique est en train de partir. D'être dominé. L'expression africaniste est en train de dominer par des expressions d'ailleurs, les Shababs qui sont des petits-enfants qui viennent de Minnesota et qui rentrent, qui ne connaissent rien de l'Afrique, ils veulent dominer avec des expressions religieuses qu'ils ne connaissent pas. Les africanistes africains viennent pour dire stoppez, écoutez, nous sommes d'abord africains. C'est comme dans les années 60 où l'africanisme est venu, même en 80, 90, quand le communisme et le capitalisme voulaient mener leur guerre sur l'Afrique et commencer à tuer les gens au nom d'une doctrine qui était étrangère, les africanistes y sont sortis. Nous les revoyons encore. Donc le Kenya, l'action qui se passe au Kenya dans le bus, l'action qui s'est passée au Mali dans l'hôtel, et l'action qui s'est passée avec Sédar Senghor au Sénégal montre que non, écoutez, quand il y a des crises où l'identité africaine est en train de se faire noyer par des doctrines étrangères, l'africanité revient et fait surface et sauve l'Afrique.
Vous parlez un peu comme Senghor qui parlait de la nécessité de s'enraciner dans ses valeurs propres tout en s'ouvrant au souffle vivifiant de l'extérieur.
comme le dit un interlocuteur ici qui s'appelle la Shogo Ombo, l'inconvénient de recopier la culture est qui n'est pas la vôtre. Et christianisme et islam, des religions pour le voyou, je suis fier d'être appelé Kimi. C'est en Afrique que le monothéisme a commencé avec le pharaon Akhenaton.
Oui, mais je crois qu'il va un peu trop loin pour dire christianisme et islam, des religions pour les voyous. Je crois que, monsieur, vous y allez un peu trop fort.
Shogo, en mots.
Ouais.
Non, Idrissa, c'est-à-dire, ça montre le ras-le-bol que l'Africain a. Que non, écoutez, la religion africaine, notre entendement du monde, nous n'allons pas pour faire quelque... La religion africaine ne fait pas de prosélytisme.
Mais comment dirais-je, fidèle, je crois que ce qu'on a essayé de démontrer depuis très longtemps, c'est que le fait d'une poignée d'individus qui se réclament d'une religion quelconque ne signifie pas la condamnation, que ce soit du christianisme ou de l'islam. C'est tout simplement que, bon, il y en a qui en profitent et qui se servent de la religion. La religion a servi de prétexte à pas mal de crimes à travers les temps. Donc, ici, parler de religion pour les voyous, je crois que c'était un peu trop fort.
Et cela va nous amener à la fin de cette émission. Nous voulons remercier et souhaiter bonne et heureuse année à tous les auditeurs. Et c'est la dernière émission de l'année,
n'est-ce pas? Merci.
2015.
Merci Kadiatou, merci à José Mauricien de l'autre côté de la vitre et merci à Fidèle Lumeya, merci à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Idrissa Seydoudia pour le dialogue des religions. Comme l'a dit Kadiatou, c'est la dernière émission de 2015. Bonne et heureuse année. Et rendez-vous à l'année prochaine.
2016.